C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, qui est la quintessence de cet état d'esprit, a été élu et sera probablement réélu s'il se représente.
Emmanuel Macron. Allez enfin vers plus de liberté.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie,
je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie femme d'action.
Donc on va voter Macron.
La République, c'est moi.
Allons-y.
Hop, nouvelle vidéo, nouveau Raptor Talk, le format où tout simplement j'expose mon opinion avec des arguments sur un sujet précis d'actualité, un thème précis de société, où je vous explique comment de fil en aiguille j'arrive à penser ce que je pense sur un tel ou un tel sujet. C'est en aucun cas évidemment une démonstration, c'est simplement une exposition, une justification de mes opinions sur le sujet en question. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup après en commentaire on peut discuter, peut-être que vous trouvez mon avis pertinent, peut-être que vous n'avez pas pensé à certains points, certaines choses que j'ai soulevées, peut-être que vous êtes totalement en désaccord, et c'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est le principe de la discussion Raptor Talk. Aujourd'hui, le sujet évidemment est tout choisi, puisqu'on va parler dans l'actualité de ces élections présidentielles 2022. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à l'entre-deux tours, donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés au deuxième tour. On va en parler dans les détails, je vais essayer de vous expliquer moi comment je comprends ces élections, comment je comprends les résultats de chaque candidat, et les leçons que j'en tire, et ça, ce sera très important à la fin pour la suite, qu'est-ce que moi je préconise de faire pour la suite des aventures. Donc sans plus de blabla, c'est parti pour ce Raptor Talk, let's go. Première partie de ce Raptor Talk, je vous propose d'analyser les résultats de chaque candidat dans l'ordre croissant, mais évidemment pour cette première partie, on va s'occuper de tous ceux qui ont fait moins de 5%, parce que visiblement les Français s'en battent les couilles, et nous, encore plus. Donc j'ai les résultats sous les yeux, on commence par Artaud et Poutou. Alors il me semble qu'ils ont plus ou moins les mêmes idées, mais vu que personne ne s'y intéresse, bon bah on va considérer qu'ils ont les mêmes idées. Donc ils sont dans un délire anticapitaliste. Nathalie Artaud, au moins, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle se fait discrète, on l'entend pas trop, ce qui est parfait, mais par contre on n'oublie pas que c'est une ancienne prof, donc c'est-à-dire que pendant des années, elle a pué de la gueule le café à 5 cm du visage des autres élèves, sans s'en rendre compte, sans jamais se remettre en question. Ça, c'est quand même un point qu'il faut garder en mémoire. Donc Nathalie Artaud, t'es dernière, et c'est bien mérité parce que t'as beaucoup trop pué de la gueule. Poutou, alors lui, par contre, j'ai vraiment envie de le balayer. Le mec a une dégaine de SDF, on dirait un mendiant. Je sais pas pourquoi, il a poussé tellement le délire anticapitaliste jusqu'au bout qu'il refuse de s'acheter des nouvelles fringues. Tous les 5 ans, il se ramène avec un clip de campagne ignoble qui nous fait tous honte, qui est ridicule, et qui montre à quel point c'est un putain de ringard.
T'en as pas marre de déblatérer toutes tes horreurs? Peu importe d'où on vient, noir, quelle blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux.
Quelle humiliation! Nous oui, sommes humiliés! Quelle humiliation!
Son but dans la vie, c'est de faire rire sur les plateaux télé ou sur Twitter. Le problème, c'est qu'il lâche des punchlines éclatées.
Vous parlez du fasciste raciste est accusé d'agression sexuelle?
Il fait rire les débiles mentaux et les gauchistes, ce qui est plus ou moins une catégorie qui se chevauche, quoi. Et surtout, il fait plus de faves et de retweets qu'il a d'électeurs. Donc, il y a un moment, il va falloir arrêter d'être un fils de pute. Aussi, il met des jogging alors qu'il fait pas de sport. J'ai vraiment envie de lui rincer les chevilles. Donc, voilà pour Philippe Poutou, bien fait, t'es avant-dernier. On passe sur des trucs qui nous font tous plaisir. Anne Hidalgo, alors personne n'a vraiment compris pourquoi elle se présentait, tout le monde croyait qu'elle se présentait pas vraiment, enfin il y a qu'elle qui croyait en fait à tout ça.
Je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie
Le truc hardcore, c'est quand même qu'elle représente le parti socialiste, qui quand même avec l'UMP et les Républicains étaient les deux gros bastions en France politique. Aujourd'hui c'est tombé à 1,75%. Donc merci Emmanuel Macron quand même. On insulte beaucoup Emmanuel Macron, moi je dis merci Emmanuel Macron, t'as bien liquidé
ses merdes.
Embrasse-moi mec.
Donc Anne Hidalgo, je sais pas, elle était contente de son résultat à Paris, peut-être qu'elle voulait qu'il y ait des rats dans toute la France.
Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être
un
le pays.
Je sais pas exactement à quoi elle pensait, en tout cas ça dégage. On passe sur Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, il me fume de rire parce qu'il est animé des meilleures intentions, il veut lever le pass sanitaire, il veut vraiment aider les Français on dirait. Et tout le monde lui dit, oui ta gueule, s'il te plaît, mets-toi sur le côté. On va faire les choses sans toi. Donc Nicolas Dupont-Aignan 2%, bon voilà, on passe à autre chose. Fabien Roussel qui fait 2,28%. Donc Fabien Roussel, il y a 6 mois, personne ne le connaissait. Il arrive dans un parti communiste de France. Donc déjà, ça commence à me faire monter des palpitations cardiaques. Point fort, c'est qu'au moins, il va chez le coiffeur et qu'il se fait des coupes correctes, contrairement à ses collègues anticapitalistes, là. Point faible, c'est qu'en fait, Mélenchon a déjà réuni tous les autres losers, donc il n'y avait pas assez de losers dans le Parti communiste pour lui faire plus de 2%, ça dégage. On passe sur Jean Lassalle. Jean Lassalle, il nous a fait plaisir, il nous a régalé. Bon, politiquement, j'écoute pas trop ce qu'il dit, mais ce qui est intéressant, c'est l'homme, sa carrure, sa prestance, et qu'il ait mis quand même des grosses PLS aux journalistes. Il est parti les traiter de lâches en direct, ça c'était vraiment... C'est cadeau.
Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, mais on savait pas que les journalistes l'étaient autant. Lâche. et qu'ils sont capables d'une lâcheté.
Que je regrette profondément ce qu'il a écrit, même si c'est France Info.
Eh ben, nous,
c'est un chien.
Non, non, vous ne pouvez pas dire ça.
Si, il n'a pas le droit d'écrire ce qu'il a écrit. Comment me connaît-il, cet homme-là? Porter des jugements aussi graves. C'est pas digne.
Il leur met des coups de pression parce que, je sais pas pourquoi, les journalistes, ils croient que parce qu'ils écrivent des articles avec leurs doigts boudinés sur un clavier, ça leur donne une domination sur les autres. Donc ça me fait un peu penser à la scène dans Batman 3, là, avec Bane, où il y a une petite merde qui est millionnaire et qui dit à Bane, ouais, je t'ai donné plein de fric pour faire ça. Et en fait, Bane, vu qu'il pèse 153 kilos pour 1m62, il l'attrape par l'épaule et lui dit est-ce que tu crois que ça te donne du pouvoir sur moi? Donc ça c'est un petit peu ce que Jean Lassalle nous a fait avec les journalistes. C'était pas suffisant mais c'était une bonne initiation. J'espère que ça continuera. Yannick Jadot, donc c'est Europe Écologie Les Verts, donc en fait c'est le Parti Socialiste qui ont tenté une reconversion dans un truc à la mode qui est l'écologisme. Et en fait vu ce qui se passe dans les villes avec des maires écolos, c'est-à-dire des urinoirs publics, des espaces mal entretenus parce qu'en fait mettre un coup de savon ça consomme trop de CO2 ou je sais pas quoi, les gens ont dit ferme ta gueule fils de pute. Et donc il fait moins de 5% et donc il a pas sa campagne remboursée, ce qui est très bien. Donc il a fait appel aux dons, on connaît la chanson. Et en parlant d'appel aux dons, on arrive sur Valérie Pécresse.
Les deux boules de mec
alias Valérie Détresse. Alors elle, c'est catastrophique, elle représente quand même les Républicains, qui est, comme je vous l'ai dit, un des partis mastodontes normalement de la France. François Fillon, avec ses histoires de veste, je sais pas quoi, d'emploi fictif, il avait quand même fait 17% il me semble en 2017, c'était un gros parti. Il est mort avec Valérie Pécresse. On peut applaudir, c'est génial, elle fait moins de 5%, génial, la meuf n'a aucune prestance, on n'a jamais compris pourquoi elle s'était présentée, il y a un problème d'éloquence, il y a un problème de rendez-vous chez l'orthophoniste qui ont été manqués, il y a un problème de redoublement du CP aussi, visiblement avec cette gonzesse.
Vous m'avez manqué! Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne, bravo elle!
Donc, elle fait moins de 5%, elle s'est endettée à hauteur de 5 millions, je crois que sa campagne a coûté 15 millions.
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron.
Personne ne va dans une élection en pensant la perdre. Personne. Et donc, ma réponse est la suivante. Je serai au deuxième tour.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5%. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
7 gigas, je vais pas dire le mot, pensait qu'on allait rembourser sa campagne de merde alors que c'est une notice qui sait pas s'exprimer. Parce que, voilà, parce que la démocratie fonctionne comme ça, de toute façon, ça on en parlera à la fin de cette vidéo. Donc, bien fait pour ta gueule, cher. Et elle prend des gros chèques de 0€, donc nickel, continue comme ça. Faites-lui comprendre ce que c'est d'être une merde. Maintenant que c'est dit et que tous ces mecs sont balayés, on va passer à la partie 2. On commence avec ce fait très intéressant de ces élections, c'est qu'en fait, il n'y a que 4 candidats qui ont dépassé les 5%. Ce qui signifie qu'il y a eu un énorme vote utile pour, en fait, donner le plus de chances à son poulain de dégager Macron. C'est à ça que sert le vote utile, on en reparlera de toute façon avec les prochains candidats. Mais là, on est sur Éric Zemmour, qui a fait un score de 7%, qui a surpris beaucoup de monde, parce que, en fait, c'est pas du tout en relation avec l'exposition médiatique qu'il a reçue pendant les 6 derniers mois. Il a eu une exposition médiatique monstrueuse, parce qu'il était déjà journaliste, chroniqueur quotidien sur CNews, qu'il a sorti son livre, et qu'ensuite il est entré en campagne, et forcément il y a eu des dérapages, ou plutôt il y a eu des déclarations chocs, qui ont fait réagir. Donc Éric Zemmour a eu une énorme couverture médiatique, ce qui est assez drôle, parce qu'en fait on n'arrête pas de nous expliquer qu'il est censuré. De tous les candidats, on n'a pas vu un mec plus présent à la télé et dans les émissions, etc. Alors Éric Zemmour, il avait commencé très haut dans les sondages, et en fait il a fait que dégringoler, parce qu'en fait sont sorties des casseroles sur lui, des affaires sordides avec des femmes, des affaires bizarres avec de l'argent, etc., etc. Ce qui a contribué à faire baisser la confiance qu'ont les Français pour lui. Parce que forcément, quand on a des accusations de s'être comporté comme un voyou, comme un délinquant, comme un agresseur, etc., eh ben, on n'a pas envie de faire confiance à un mec comme ça. Autre chose, moi, quelque chose qui m'a vraiment choqué, Éric Zemmour veut quand même mettre à l'honneur la tradition française, le conservatisme, la famille, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il humilie sa femme et ses enfants, parce qu'il a trahi son couple, en affichant sa nouvelle compagne en prime time. Je crois que c'était face à Baba, là, sur avec Cyril Hanouna.
Qui est Sarah Knafo?
Non.
Ma collaboratrice,
m'accompagne.
Je crois que c'est du respect, mon garçon.
Je pense que même inconsciemment, beaucoup de gens qui auraient pu peut-être voter pour lui ont lâché l'affaire. C'est parce que, en fait, il a trahi sa famille. Quelqu'un qui trahit sa femme, ses enfants, sa famille, eh ben, il perd énormément de capital confiance parce que il va trahir autre chose, en fait, tout simplement. Ensuite, il a perdu des points quand il a commencé à radicaliser son discours. Moi, je me souviens du débat avec Jean-Luc Mélenchon, où Jean-Luc Mélenchon lui disait « Ouais, vous parlez de rémigration, je sais pas quoi. » Et Zemmour se défendait « Ah non, j'ai jamais dire immigration.
C'est vous qui avez parlé de réimmigration.
Pas du tout. Mais 6 mois plus tard, le mec fait bon, je vais créer un ministère de la remigration.
Veut un ministère de la remigration.
Donc en fait, c'est un score tout à fait honorable, mais c'est le score qui correspond à autant de radicalité. Parce qu'en fait, les Français, ils côtoient des étrangers, des Français d'origine étrangère.
Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens.
Et quand ils entendent des mots comme ça, ils trouvent que ça porte atteinte à leur dignité, que ça porte atteinte à leurs valeurs. Ils veulent pas d'une France comme ça, où on dévisage les gens, où on, en fait, toute personne qui est issue de l'immigration est en quelque sorte sur la sellette. Ça n'a pas du tout plu, je pense, c'est ce que ça a expliqué sa dégringolade. Et puis ensuite, accompagnant les sondages qui baissaient, les gens se sont dit que ça ne valait plus la peine de voter pour lui. Et donc, il finit à 7%. Maintenant, il faut faire la différence entre Éric Zemmour et ses électeurs. Alors, il y a quand même dans ses électeurs, évidemment, des gens peu fréquentables, très très hardcore. Mais il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, c'est un vote de désespoir. C'est des jeunes qui ne se retrouvent plus dans la France d'aujourd'hui, qui sont dévastés, qui ont peur et qui sont choqués et qui ne veulent pas de ça dans leur pays. Quand ils voient des jeunes de leur âge qui meurent parce qu'ils n'ont pas voulu donner une cigarette, qui meurent pour un regard, quand ils voient même des vieux qui se font torturer, qui se font frapper, etc., ils trouvent ça inadmissible. Donc, ils veulent plus de justice, ils veulent plus de sévérité, ils veulent en fait qu'il n'y ait plus de blabla, ils veulent qu'il y ait de l'action, et donc ils ont trouvé qu'Éric Zemmour était le seul qui incarnait cette action. Et en plus, vu qu'ils se font insulter non-stop par la presse et par tout le monde en fait, il y a en gros 90% des Français qui insultent les électeurs d'Éric Zemmour. Ça va pas le faire, parce qu'en fait, si vous essayez pas de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et pourquoi ils votent ce qu'ils votent, vous allez juste alimenter les tensions qu'il y a dans ce pays, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc c'est pour ça que Rap Talk Talk existe, voilà, c'est la plateforme où on discute et on essaye de comprendre pourquoi les gens votent ce qu'ils votent, pensent ce qu'ils pensent, au lieu d'être une merde pavlovienne qui réagit fasciste, raciste, truc.
Du fasciste, raciste.
Il faut essayer de comprendre les gens. On passe sur le prochain candidat. Le candidat qui est arrivé numéro 3 à ces élections présidentielles, sur la place qui est en fait le premier perdant, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même comptabilisé près de 22% des suffrages exprimés. C'est un très très haut résultat, c'est plus haut que ce qu'il avait fait en 2017, et Jean-Luc Mélenchon en fait s'est imposé comme la seule alternative crédible à gauche contre Emmanuel Macron, pour dégager Emmanuel Macron. Et c'est ce qui explique en fait les parts de vote utiles dans ses voix totales. Il y a près de 50% de vote utile pour Mélenchon. Donc il y a 50% aussi de vote de gens qui lui font confiance, qui croient en son programme. C'est des gens en fait qui veulent un avenir différent. Donc ça, ils ont quand même du mérite. Ils voient qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Ils veulent que ça change. Et ils trouvent que Jean-Luc Mélenchon est celui qui a un programme qui colle le plus à ce changement qu'ils aimeraient voir opérer dans la société. Les gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, c'est la pauvreté, c'est l'inclusion sociale, c'est l'écologie, même si bon, voilà, je vais pas faire de commentaires, j'en ai déjà fait sur la précédente vidéo, Raptor Talk. Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il a fait fort puisqu'il a réussi à réunir tous ceux qui sont animés par la justice sociale, la répartition des richesses, etc. Et tous ceux qui sont animés par une autre vision de la justice sociale qui concerne plutôt l'inclusivité, le wokisme, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui concerne majoritairement les 50% de gens qui votent par adhésion à son programme. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était d'essayer de comprendre c'était quoi ces 50% de gens qui votent par vote utile. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une mobilisation massive pour dégager Emmanuel Macron, il n'y a pas d'autre mot. Le vote utile, ça sert justement à abandonner un petit peu son vote de cœur pour maximiser les chances d'un candidat d'arriver au second tour et donc d'expulser le président sortant en général. Et donc, tout simplement, je vais vous expliquer qui sont ces gens. C'est tous ceux qui ne voteront pas Marine Le Pen, parce qu'il y avait deux votes utiles qui s'imposaient dans cette élection. C'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc on a d'abord les gauchistes historiques qui sont conditionnés, pavloviens, et qui vont faire barrage au second tour, qui disent non, Marine Le Pen, méchant, extrême droite, fasciste, raciste, hors de question que je vote pour elle. Donc c'est un vote de désespoir finalement. Et les derniers candidats qui correspondent à leurs attentes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, et c'est très important de le comprendre, il y a un énorme vote dit communautaire. Alors les gens disent que c'est un vote musulman, moi je pense que c'est réduire ce vote communautaire, il est bien plus large, il s'étale à tous les extra-européens en réalité, dont l'opinion politique ne concerne pas du tout des conditions économiques, etc. Non, eux, tout ce qui les concerne, c'est raciste par raciste. C'est tout. Marine Le Pen raciste, Jean-Luc Mélenchon pas raciste. Je vote Jean-Luc Mélenchon. Il y aurait un deuxième tour Macron-Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon pas raciste. Macron, il est pas raciste, mais il y a quand même Darmanin qui a fermé des mosquées, des Darmanin qui lutte contre le séparatisme, etc., etc. Donc, Macron raciste, Mélenchon pas raciste, je vote Mélenchon. C'est, j'exagère les traits, mais tout ce qu'il y a à comprendre dans ce qui motive ce vote communautaire. Et donc, c'est pour ça que c'est un vote qui va au deuxième tour se reporter massivement sur Emmanuel Macron. Peut-être un petit peu d'abstention, mais je pense que la peur de voir Marine Le Pen élue fait que ça va se reporter à fond sur Emmanuel Macron. Pour voter, entre guillemets, pour le moins pire. Et ensuite, et ça, c'est une portion qui est pas forcément visible, des gens qui ont voté utile Mélenchon mais sans forcément adhérer, c'est des gens en fait qui sont qui n'ont pas de vision pour la France ou quoi, juste ils ont regardé eux et ça c'est ce que les équipes de Mélenchon ont très bien fait, c'est qu'ils ont dit regarde, moi je les ai vus hein, sur Twitter, regarde, si tu gagnes moins de 4000 euros par mois t'as tout intérêt à voter pour lui parce qu'il va t'augmenter ça. Bon, ils comprennent pas les dynamiques économiques basiques, c'est à dire que quand on augmente le SMIC le chômage augmente, mais c'est pas grave parce qu'en fait même quand t'es au chômage ou RSA tu gagnes 1000 euros. Bon bref, ils sont un petit peu boussolés, ils sont obsédés par l'argent, ça c'est, faut quand même souligner la chose, ils sont obsédés par l'argent, c'est la seule valeur qu'ils respectent, donc c'est déjà des énormes dégénérés, et c'est très drôle parce qu'on dit les boomers, trucs, ils votent égoïstement juste pour leur gueule, ces gens-là sont les plus gros égoïstes qu'on ait jamais vus, ils sont prêts à enculer tout le monde, s'ils peuvent passer à gagner un petit peu 200 euros par mois, on s'en bat les couilles, on écrasera tout, donc ça je tenais quand même à le souligner, vous êtes des merdes. Et pour finir sur Jean-Luc Mélenchon, donc il lui a fallu 20 minutes pour appeler à ne donner aucune voix à Marine Le Pen, il l'a répété plusieurs fois.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Au moins, il avait eu la dignité en 2017 de faire un sondage aux insoumis. Enfin, il s'appelle insoumis. Hein. Il s'appelle insoumis, mais ils écoutent leur gourou. Il leur avait fait faire un sondage, après ils décidaient, etc. Il leur avait fait confiance. Bon, ça avait suffi à ce qu'ils fassent barrage, mais il leur avait fait confiance. Là, il a dit aucune voix pour Marine Le Pen. Donc, c'est très drôle de voir, en fait, les mouvements anti-système qui ont dénoncé la veille. Hein, la veille, Macron, c'est le plus gros fils de pute du monde. Ah, c'est le plus gros banquier, il vend la France. Nanana. Bon. Ouais, mais quand même. Donc, il finit sa carrière sans aucune dignité. De toute façon, il faut arrêter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrêter de vous faire des films. C'est un gros sénateur PS pendant 40 ans, il a mangé à toutes les tables. Au sujet des doses, il a dit, ouais, si l'OMS me dit, eh ben on le fera.
Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière, pour que vous soyez vaccinés. Mais ce n'est pas le cas.
Mes fils de pute, l'OMS n'est pas président de la France, en fait. Donc, c'est une merde, et de toute façon, c'est le cas de tous les candidats que j'ai cités, sauf Macron, qui pour le coup est resté droit, ils ont adapté leur avis sur le pass sanitaire, les dosages, etc., selon ce qui était en vogue et ce qui permettait de capitaliser les voix. Donc Jean-Luc Mélenchon finit sa carrière sans négociation en donnant les voix pour Macron. Bravo à lui. On espère que ça aboutira à sa réélection. On passe sur le prochain candidat. On arrive sur celle qui est arrivée deuxième à ces élections présidentielles et donc qui est qualifiée au deuxième tour. Avec 23% des suffrages, c'est Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen s'y explique qu'elle est comptabilisée autant de voix, c'est d'abord parce qu'elle s'appuie sur un parti politique qui n'a fait que monter les dernières années. En fait, plus la France est dans un état pitoyable, plus le Front National, enfin le Rassemblement National, monte dans les sondages et dans les suffrages. Donc elle a ce parti historique qui apporte du sérieux et de la crédibilité à sa candidature. Elle était déjà au deuxième tour en 2017, il y a 5 ans. Et surtout, elle a mené une campagne, en fait, très discrète, où elle a été complètement éclipsée par Éric Zemmour, qui a servi en fait de paratonnerre à toute la diabolisation, mais il faut pas oublier que c'était aussi ce qui s'est passé en 2017. En 2017, il n'y avait pas Éric Zemmour, évidemment, mais il n'y a pas eu de diabolisation dans les médias tels qu'on le connaît de Marine Le Pen avant le premier tour. C'est entre les deux tours, et ce qui est encore en train de se passer, mais de toute façon, c'est bis repetita. On en parlera à la fin de la vidéo, à quel point Itachi nous a tous mis dans l'Izanami, là. Là, on observe entre les deux tours que tous les médias recommencent la diabolisation. Donc quand on décompose le vote de Marine Le Pen, on voit qu'il y a deux tiers qui aient un vote d'adhésion, et il y a un tiers qui est un vote utile. Elle est majoritaire dans les classes populaires qui travaillent de 18 à 60 ans, donc les actifs, qui sont déclassés d'année en année en fur et à mesure que la dette de la France grimpe et que sa situation internationale devient catastrophique et même nationale et intérieure, qui aussi ont pour point d'intérêt central, en plus des questions économiques, la question de la sécurité, de la justice, de l'immigration, et qui trouvent en Marine Le Pen enfin quelqu'un qui entend et qui veut apporter des solutions à ces problèmes-là qui leur pourrissent le quotidien. C'est des gens qui en ont marre que le système et les médias leur crachent à la gueule en permanence parce qu'ils osent exprimer un petit peu de rébellion vis-à-vis de ce qu'ils vivent au quotidien et qu'ils osent se plaindre. Et c'est de toute façon ça l'accusation d'extrême droite, et il faut la comprendre. L'accusation d'extrême droite, c'est fait pour désarmer ses opposants, c'est fait pour les faire culpabiliser et leur interdire de se défendre. Ils ont juste le droit de subir et de trouver un autre bouc émissaire, la pauvreté, je sais pas quoi, quand ils se prennent des coups de couteau pour une cigarette ou un regard. Donc cette accusation marche de moins en moins parce qu'elle a été surutilisée comme d'habitude, mais ça fonctionne toujours. Et ensuite, on a un tiers des voix qui sont allées à Marine Le Pen qui font partie d'un vote utile, donc encore une fois pour renforcer sa candidature, lui permettre d'être au second tour et d'éliminer si possible Macron, mais en tout cas d'être au second tour. Ce vote utile, c'est tout simplement en fait des gens qui voulaient voter, je pense, Éric Zemmour et qui, au vu des sondages et des tendances décroissantes de ce dernier, se sont dit que la candidate qui incarnait le plus leur conviction et la plus sérieuse au titre de président de la République, c'était Marine Le Pen, et donc ils ont massivement reporté leur voix sur elle. C'est très drôle d'ailleurs parce que on a jusqu'à des cadres du Rassemblement National qui ont quitté le navire quelques semaines avant parce qu'ils étaient trompés en fait par Twitter, les réseaux sociaux. Ils croyaient qu'il y avait vraiment une dynamique de fou et tout le monde, enfin tous les novices ont été trompés par les réseaux sociaux, que ce soit les mélenchonistes ou les zémouristes. Ils ont oublié ce qui s'est passé en 2017. La vraie vie, les gens normaux, ils sont pas du tout sur les réseaux sociaux, ils s'en battent les couilles. Ils sont sur leur poste de télé, c'est ça qui guide leur choix. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus sur Marine Le Pen, j'en ai déjà parlé dans le passé. C'est une incapable, elle est nulle, elle connaît pas ses sujets, elle ne travaille pas. Elle veut juste s'assurer une rente sur l'opposition éternelle. Elle se torche avec ses électeurs. Ses électeurs ont des espoirs, ses électeurs veulent que ça change. C'est leur dernier espoir, elle en a rien à foutre. Son but, c'est d'avoir sa rente, d'avoir ses députés, d'avoir ceci, cela. Vous allez voir qu'elle va enchaîner les bourdes. Au débat, elle va se catastropher. Donc, je pense que les résultats du deuxième tour, ce sera 39-61 en étant généreux. Plus ou moins 3% selon ses prestations. Au débat, on se retrouve après les élections pour vérifier. Et on finit cette analyse des élections présidentielles avec celui qui sort numéro 1 de ce premier tour. C'est le président sortant, Emmanuel Macron, avec près de 28% des suffrages exprimés. Première remarque, déjà tous les candidats dans le top 3 ont gagné des voix par rapport aux élections de 2017, mais Macron en a gagné plus d'un million. Donc c'est pas du tout un vote de dépit ou quoi, c'est un vote de soutien, c'est un vote d'adhésion à sa politique. On remarque quand on s'intéresse encore une fois à la proportion de vote utile ou d'adhésion, qu'il est comme Marine Le Pen, 2/3, 1/3. On a un fort socle d'adhésion à sa politique, les gens sont très satisfaits, faut le comprendre. Les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron sont très satisfaits de la manière dont il a géré le Covid.
Il a su faire face à la pandémie.
De la manière dont il a géré l'Ukraine.
Et ce qui se passe aux portes de l'Europe avec la Russie. Je ne comprends pas comment les gens ne sont pas angoissés.
De la manière dont il a géré les gilets jaunes, etc., etc. Et ensuite, on a un tiers qui a voté utile pour renforcer sa présence au premier tour, qui provient en majorité de la bourgeoisie de droite, de gauche, du PS, qui n'ont pas voté pour Hidalgo, d'Europe Écologie Les Verts qui n'ont pas voté pour Jadot, et des Républicains qui n'ont pas voté ni pour Zemmour, ni pour Valérie Détresse. Quand on regarde aussi les classes d'âge qui votent pour Emmanuel Macron, on voit qu'il y a une écrasante majorité de plus de 65 ans qui votent pour lui. Et ça, c'est ce que je vous disais, le vote Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il va gagner les élections, c'est un vote de statu quo, c'est un vote de protection, c'est un vote de sécurité, c'est des gens qui ont assez peur finalement. Et on le retrouve notamment chez les plus de 65 ans, qui ont eu très très peur du Covid-19, qui veulent plus de doses.
On veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut des vaccins. Ce système est notre ennemi, ce qu'il faut que tu comprennes.
Plus de masques, je l'ai déjà décrit dans mes vidéos précédentes, ils se comportent comme des vampires qui aspirent l'énergie vitale des générations suivantes. Ils en ont rien à foutre que les enfants soient masqués dans les écoles primaires tant que le virus ne circule pas, c'est super. S'il pouvait y avoir plus aucun virus sur Terre, les boomers, ils seraient heureux, ils feraient des maisons d'hôtes, ils iraient dans des belles croisières. Allô. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron, dans sa gestion incroyable de la crise Covid, a augmenté la dette publique française de 650 milliards. Hey voilà, son quinquennat, c'est plus 650 milliards de dettes. Il y a des gens qui disent Marine Le Pen, si elle est élue, ce sera catastrophique, je sais pas quoi, économiquement. On peut faire 1000 milliards, hein. Franchement, on peut faire 1000 milliards. 650 milliards, ça reste un beau score, c'est le score le plus élevé de tous les présidents de la 5ème République, donc bravo quand même à Emmanuel Macron. Moi je trouve qu'il a très bien géré le Covid, plus de masques, plus de doses, les Français demandent ça. D'ailleurs, au passage, vous pouvez vous plaindre que oui, on a protégé. J'ai vu des tweets, des merdes comme Usul. Oh, on a tout fait pour protéger les boomers, voilà. Non, en fait, sale merde. Si t'avais un tout petit peu de logique et que t'arrêtais de croire la science sponsorisée et les menteurs du gouvernement qui, selon ta lecture des choses, t'ont menti sur absolument tout, sauf sur le Covid, t'aurais peut-être compris que tout ça était une gigantesque escroquerie. Maintenant, c'est trop tard.
Donc, on va voter Macron. C'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année.
Sous Macron, on pourra continuer tout ça. On pourra amplifier ces dynamiques.
Allons-y. On va repartir sur un quinquennat, voire un septennat de Emmanuel Macron. Et quelque part, est-ce que les Français n'aspirent pas à ça? Et ça explique qu'ils soient élus. Il y a un moment où il va falloir quand même se remettre en question, se regarder en face du miroir. Peut-être que Emmanuel Macron est président parce qu'il a été élu par la majorité des Français. Je sais pas, j'ai aimé cette suggestion. Donc peut-être que la majorité des Français est très satisfaite, peut-être que la majorité des Français a envie que ça se passe comme ça. Ils adorent sa façon de gérer l'Ukraine, la Russie. D'ailleurs, au passage, même chez les gens éveillés, on a vu comment ils se sont fait manipuler concernant le conflit russo-ukrainien. Je vais pas en parler ici parce que YouTube va encore me mettre des petits cuts. Arrêtez, en fait, je comprends pas trop le principe de croire des gens sur un sujet alors qu'ils vous mentent sur 99% des autres. Je sais pas, peut-être que il y a une forme de conditionnement à voir. En tout cas, Emmanuel Macron, donc il remporte les suffrages la main chez les plus de 65 ans et c'est lui le candidat majoritaire chez les cadres sup et tout le domaine un peu artistique parisien des grandes villes. Je vous le dis d'avance, toutes les voix des jeunes mélenchonistes vont se reporter massivement sur Emmanuel Macron parce que les jeunes sont des merdes, plus ou moins. La télé va leur dire des trucs pas gentils, nanana, TikTok va faire son affaire. Voilà, on s'en bat les couilles et ça nous fait amorcer sur la dernière partie de cette longue vidéo, mais pour moi elle est essentielle, la suite. Vous l'avez pas remarqué, mais on a oublié le parti qui gagne ces élections haut la main, c'est l'abstention. Et c'est mon choix personnel. Maintenant, je force pas la main, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et pourquoi moi j'ai quitté tout ce petit jeu à la con, parce que j'ai pas le temps. D'abord, je vais casser tous les arguments de merde sur l'abstention. Non, ce n'est pas à cause des abstentionnistes que votre candidat n'a pas été élu. En fait, si on voulait voter pour votre candidat, on aurait voté pour votre candidat. C'est un abstentionniste n'est pas par défaut celui qui va voter pour votre candidat. Il faut arrêter d'être un débile mental. Le vote blanc existe. Sinon, on peut voter pour le candidat opposé. Voilà, fermez vos gueules. Deuxièmement, pour les débiles mentaux qui disent oui, c'est un droit de voter. Il y a des pays qui peuvent pas. On s'est battu. Nos ancêtres se sont battus pour ça. Alors ferme ta gueule. En fait, parce que tes ancêtres se sont pas battus pour que tu sois une grosse merde qui arrive pas à aligner 15 burpees. Tes ancêtres se sont pas battus pour que tu te mettes 5 doses dans le ventre suite à un coup de pression. Tes ancêtres se sont pas battus pour que ton pays y a des gens qui se prennent des coups de couteau pour une cigarette ou un regard de travers et que tout le monde trouve ça normal, etc, etc. Donc en fait, moi je vous propose quand même d'arrêter d'être des merdes, de reprendre un petit peu de dignité, de grandir vos épaules, et ensuite on arrivera à mes ancêtres se sont battus, et finalement vos ancêtres se sont pas battus pour que en fait la démocratie soit autant volée et que le droit de vote devienne autant le droit d'être influencé. Et là je vais vous donner mes arguments pour lesquels je ne crois pas en la démocratie, pourquoi ça me dégoûte en fait. Premièrement, la démocratie, en fait, comme il existe du marketing pour les entreprises, vous savez que le marketing permet de multiplier par 2, 3, 10 les chiffres, les ventes d'une entreprise donnée, quand il est bien exécuté. C'est exactement pareil pour les votes. Les votes, c'est une sorte d'entreprise, chaque candidat a sa société, Coca-Cola, McDo, ce que vous voulez, Quick. Et en fait, par son marketing, par sa communication, il arrive à prendre des clients, des voix. Donc, si le marketing existe, c'est que l'influence existe. Si les influenceurs existent, c'est que l'influence existe. Et devinez qui a le plus d'influence largement, c'est le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, c'est les médias. Ils sont intestables, incontestables, les réseaux sociaux ne feront jamais rien contre ça, et donc la démocratie est le fruit de la propagande des médias. Qui possède les médias possède la démocratie, point barre. Ensuite, deuxièmement, il y a une fatalité démographique. Vous aurez remarqué que démocratie et démographie, il y a plus ou moins le même radical. C'est normal en fait, parce que l'un dicte l'autre. On a aujourd'hui 16 ou 17 millions de retraités. C'est des gens qui sont pas actifs, qui ont fini leur vie, vous voyez comment ils se comportent avec vous. Ce chiffre va augmenter, passer dans les 5 à 10 prochaines années, à 20 millions. 20 millions. Je rappelle que les suffrages exprimés, les inscrits, c'est 50 millions. Voilà. Donc on a plus d'un tiers qui sont déjà des retraités, des boomers, ce que vous voulez, 20 millions. Ensuite, ce qui reste de la population. Il y a les égoïstes qui pensent qu'à leur gueule, qui essaient de se tirer un petit SMIC supplémentaire, un petit truc, qui s'en battent les couilles du reste du pays, d'endetter, truc, il y a eux. Il y a une personne sur deux qui est une personne très influençable, voilà. Je vais pas continuer.
C'est des gonzesses.
Ensuite, dans ce qui reste, il y a tous les mecs qui sont sortis de l'appareil du système éducatif, du système de l'éducation nationale, donc ils sont complètement brainwashed, ils sont fait un lavage de cerveau complet. Il y a des petits keuks qui font des manifs de merde écologie et qui ensuite jettent tout par terre, parce que c'est des fils de pute. Il y a très peu de gens qui ont les idées claires, et en plus ils sont divisés parce qu'en fait ils sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut mettre une balayette ou pas à un mec clandestin qui a fait un crime. Je comprends pas trop le principe, mais c'est comme ça. Et enfin, il y a une part de plus en plus croissante de gens issus de l'immigration extra-européenne. Comme je vous l'ai dit, leur vote se résume à raciste par raciste. Point barre. Moi je pense qu'il faut absolument sortir de ce tsukiyomi infini, de cette boucle, de cette illusion, de cette zumba, parce qu'en fait c'est simple, moi j'ai pas le time. C'est comme les gens qui vont à la salle. Il y en a, ils y vont, gros programme personnel. Personnalisé Raptor Coaching Pro, gros mode avion, gros casque, ils ont pas le temps, séance, fête, ils rentrent, point barre, douche, ça suffit. Et ils progressent. Il y en a, ils y vont, ils testent un peu les machines, ils font truc, ils perdent leur temps, année après année, ils stagnent. Tous les 1er janvier, vous les retrouvez, bah pareil, tous les 5 ans, vous les retrouvez aux élections présidentielles, ils sont saucés, exactement pareil. Il y en a d'autres, ils vont faire des cours de Zumba, bon, pour draguer des meufs, ça correspond aux mecs qui ont des idées de merde, parce qu'en fait, ils veulent plaire aux meufs. Donc pour moi, il y a vraiment une fatalité indépassable dans notre condition. Ensuite, je sais pas exactement qui est l'imbécile qui a décrété que une personne égale une voix, égalité, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que quand je vote oui et qu'un tocard camé vote non, il y a égalité? Je sais pas qui a eu cette idée-là. C'est un truc que j'arrive pas trop à visualiser, ni à théoriser, à justifier, à rationaliser. Je sais pas pourquoi deux personnes peuvent décider du destin d'une troisième. Surtout quand on voit les choix pitoyables des gens, en fait, qui s'occupent de leur vie de merde. Et puis, moi, je m'occuperai de la mienne. Donc ça, c'est un truc que j'arrive pas à accepter, que je n'accepte pas. Non. Et donc, il est hors de question que je me soumette à un truc dont les règles sont ces règles-là. Pour information, sachez que j'ai voté pour la première fois en 2012. C'était à l'époque de Sarkozy Hollande. J'ai voté blanc parce que j'estimais que j'avais pas les notions ni les connaissances nécessaires pour donner mon opinion, et ensuite j'ai arrêté de voter, voilà. Aussi simple que ça. En 2017 j'ai pas voté, et en 2022 non plus. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire le plus gros hold-up du siècle, allez tous voter, faites tous votre choix maintenant. Si les résultats sont pas exactement à la hauteur, que vous avez un petit peu des problèmes, peut-être écoutez ce que j'ai à dire. Moi je pense qu'il y a des tas de choses sur lesquelles on n'a pas le levier, on peut pas les modifier. On n'a pas de quoi avoir une action quelconque sur ces choses-là, donc il faut faire avec, il faut faire acte de ça et faire tout son possible pour, dans un premier temps, repérer les choses sur lesquelles on a un levier d'action, sur lesquelles on peut agir pour soi, pour son entourage proche, etc. Finalement, c'est une position de confort, de tout attendre d'un système politique, des choses en fait sur lesquelles on a très peu de pouvoir.
Nous ne sommes pas le camp du système.
Ça nous permet d'être pépère. La difficulté, c'est de se prendre en main et de faire tout ce qui est en son possible pour déjà améliorer sa vie à son échelle, à l'échelle de sa famille, etc. Et si les gens, croyez-moi, si les gens faisaient ça, les choses, ils iraient beaucoup mieux parce qu'en fait, ils se responsabiliseraient. En fait, on aurait une accumulation de personnes responsables et capables de faire des choses dans ce pays. Et c'est loin d'être le cas, vous en conviendrez. J'ai entendu énormément de déçus aussi qui ont parlé notamment d'expatriation. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je comprends ces gens-là, je comprends que les gens en aient marre de se faire insulter, de se faire cracher dessus. Ils ne veulent peut-être tout simplement pas financer, participer à ce désastre, à cette dégringolade qui est en train de se produire sous nos yeux. Ils veulent aussi peut-être reprendre leur liberté, maintenant je sais pas dans quel pays ils iront.
Aller enfin vers plus de liberté.
Donc c'est quelque chose que je comprends. Moi, c'est pas mon choix, j'aime la France est le pays le plus beau du monde. La culture resplendissante de Brest à Nice, de Strasbourg à Carcassonne, à Biarritz. Moi, je considère qu'il y a des gens dans ce pays qui sont dignes, qui sont volontaires, qui veulent se dépasser, avec qui j'ai envie de travailler. J'ai toujours, et c'est le motif aussi de mes entreprises, le coaching, les compléments alimentaires, la nutrition, c'est de ceux qui veulent progresser, ceux qui veulent s'améliorer, bah moi j'ai envie de les favoriser, j'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie de les aider, de travailler avec eux. Donc moi je sais qu'il y a des gens de talent, des gens qui sont efficaces, il y a des gens qui sont super encore dans ce pays malgré tout ce qu'on peut dire. D'ailleurs moi j'aime beaucoup Paris, c'est ma ville de cœur et je sais que Paris est rempli de fils de pute, mais c'est comme ça, j'aime beaucoup cette ville. Donc voilà, je comprends ceux qui n'en peuvent plus, mais ce n'est pas mon choix et ce n'est pas ma vision en tout cas des choses. Les épopées s'écrivent à travers les obstacles qu'on surmonte, c'est la vie, il faut qu'il y ait de l'aventure, il faut qu'il y ait de la difficulté, il faut la surmonter. C'est tout le sens pour moi de la vie, et on n'a qu'une seule occasion de faire tout ce qu'on peut faire dans cette vie, d'être digne, de vivre dignement, libre, heureux, et de faire les choses bien, de travailler bien, de se donner. Et c'est cet état d'esprit-là que je veux transmettre, c'est avec ces gens-là que j'aimerais travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais que du Made in France, mes compléments alimentaires, etc. C'est parce que je veux favoriser les gens qui en valent la peine, qui travaillent et qui en veulent dans ce pays. Donc c'est tout pour cette très longue vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer parce que j'avais plein de choses que je voulais partager avec vous, qui j'espère vous intéresseront. Suivez-moi sur Instagram, RaptorVSFond, c'est là où j'ai le plus d'actualité et où vous aurez peut-être des idées de choses qui vous aideront à vous dépasser, à vous progresser. Et des conseils de chat, voilà. Allez voir les conseils de chat si vous connaissez pas, bah c'est qu'il faut aller sur Instagram, RaptorVSFond. J'ai un TikTok aussi où je l'ai mis, mais j'ouvre rarement l'application parce que je peux pas, en fait, ça m'agresse directement, ça me met des vidéos cheloues. Donc si vous êtes sur TikTok, allez sur TikTok Raptor Coaching Pro. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite, approximativement, vous me connaissez. C'était le Raptor, ciao.
Protéger et protéger les nôtres. Allons-y.